Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur.
Bonjour et bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé à l'imparfait. 30 avril 1993, tournoi de tennis féminin de Hambourg. Monica Seles affronte en quart de finale la Bulgare Magdalena Maleva. En ce début d'année 93, la jeune joueuse d'origine yougoslave règne en maître au sommet du tennis mondial. Gauchère et puncheuse hors pair, Monica Seles est connue pour ses coups droits joués à deux mains, ses revers imparables et les cris puissants qui accompagnent chacune de ses frappes. À 17 ans, elle a déjà décroché 8 titres du Grand Chelem, un record à son âge, et s'apprête à défendre ses 3 titres consécutifs à Roland-Garros. Mais ce 30 avril 1993, l'ascension aussi fulgurante que précoce de cette jeune championne va connaître un coup d'arrêt tragique. En plein match, alors que les deux adversaires se reposent le temps du changement de côté, un spectateur déboule des tribunes et plante un couteau de cuisine dans le dos de la joueuse prodige du tennis. Ce mois-ci, dans EPO, nous revenons sur un des événements les plus effroyables du sport, mais aussi sur la carrière d'une des plus grandes joueuses de tennis de l'histoire. Et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, j'ai l'immense honneur de recevoir sur le central Younes.
Salut tout le monde.
Chloé.
Coucou.
Olivier.
Bonsoir, bonsoir.
Et Sarah.
Bonsoir Mickaël.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'écouter une petite archive.
Nous venons de recevoir les images du drame qui s'est produit au tournoi de Hambourg. Monica Seles a été poignardée au moment où elle jouait. L'agresseur a été arrêté. Écoutons Alain Escoubet.
Écoutez. C'est le cri que vient de pousser Monica Seles alors qu'un homme d'une quarantaine d'années s'est introduit sur le court central de Hambourg et l'a frappé d'un coup de couteau dans le dos alors qu'elle disputait un match contre la Bulgare Maleva et qu'elle était assise sur sa chaise au cours d'une pause. Monica Seles est restée debout malgré le choc mais a dû être évacuée d'urgence vers un hôpital voisin. Pas de précision pour l'instant sur la raison de cette agression, mais on peut y voir peut-être des motifs politiques. Monica Seles a la nationalité yougoslave, mais appartient à la minorité hongroise. Elle s'est toujours abstenue de prendre quelque position que ce soit par rapport au conflit yougoslave, estimant n'être qu'une joueuse de tennis qui n'a pas à débattre de ce sujet.
Raison politique ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de PO. C'était un extrait du journal d'Antenne 2 du 30 avril 93 présenté, Younes, par
Bruno Mazur.
Et non, Paul Amar.
Tristesse.
Et je vais commencer parce qu'on n'a pas encore parlé de ce sport, par faire un petit tour de table.
Quel sport?
Alors on vous précise, Sarah est bourrée, elle n'a pas du tout bossé.
C'est faux.
Alors, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous aimez le tennis? Est-ce que vous regardez le tennis? Younes?
Oui, je regarde le tennis même en dehors de la période estivale de Roland-Garros. Et ah oui. J'aime le tennis, ouais.
D'accord. Voilà. C'était complet, hein, c'était
un... Oui, voilà. Non, mais j'aime le tennis, mais...
Mais c'est concis.
J'avoue que j'ai quand même une préférence quand la saison de la terre battue commence, et ça commence à Rome. Et je suis assez content de voir ce tennis qui a plus de charme à mes yeux que le tennis trop rapide sur surface dure. Voilà.
Ah, monsieur est un spécialiste.
Oh,
C'est chouette.
Si peu, si peu.
Chloé.
J'ai pas compris ce qu'il a dit. Alors moi, non, le tennis... Il y a deux sports auxquels je suis complètement hermétique. Le tennis en fait partie.
Et la Formule 1.
Et le golf.
Non.
Ça a été évoqué, je ne le dirai pas, on en parlera sûrement dans un prochain épisode, mais ça m'a confirmé que j'aime pas vraiment ça.
D'accord.
Ok.
Olivier.
Oui.
Oui.
Le tennis, moi j'aime bien ça me rappelle mon papa qui me délaissait lors de chaudes après-midi pour voir Roland-Garros. Ah oui. Et du coup, je regardais aussi Roland-Garros et j'ai appris à aimer ça, j'aime beaucoup le regarder, j'aime beaucoup y jouer, surtout contre toi Mickaël. Il faut dire qu'on a on peut dire aux éditeurs qu'on a un niveau assez exceptionnel.
Ouais, quand même. Ouais. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi on n'est pas diffusé à la télé.
Bah parfois, tu sais que la dernière fois Eurosport a voulu nous diffuser.
Oui. Alors ils mettent des caméras espions sur les immeubles aux alentours pour pouvoir nous filmer et nous diffuser en
après,
direct.
Après on refuse hein, mais
On signe quelques autographes et puis on s'en va.
Donc voilà, Roland Garros évidemment.
Non, moi, ça va rester digne, hein, c'est ça.
Ouais, c'est le plus important, tu sais, la dignité, n'est-ce pas Sarah? donc voilà, moi j'aime beaucoup le tennis.
Sarah. Elle vomit.
Merci.
Non, j'aime beaucoup, j'adore le tennis. C'est un sport préféré. Oui. J'ai un très.
Si tu peux dire toutes les lettres, c'est bien. Dit-il alors que j'ai buté sur tous les mots à l'intro.
Mais ça, on n'a rien dit.
Oui.
C'est moi le chef, c'est normal.
Eh bah oui, salaud. Nous on te reprend pas. Non, et j'ai un très bon ami avec qui j'ai fait mes études, qui est un fan inconditionnel de tennis, et donc il me raconte toujours plein d'histoires, et c'est trop bien. En fait, il rajoute au plaisir de regarder le sport les anecdotes, les petits trucs, les familles, les entraîneurs, etc.
Est-ce qu'il regarde ce sport nu avec toi?
Non. Ah bon. Pourquoi?
Parce que Mickaël le regarde nu, visiblement.
Le tennis, c'est toujours à poil. Hein. Ouais, bah, il fait chaud à Roland-Garros.
Je suis pas la seule à avoir bu, apparemment. Et voilà, j'adore ce sport.
Très bien. Alors moi, j'ai un point de vue assez ambivalent sur le tennis. Je vais être très honnête, c'est un sport que je n'aime pas regarder. Et très franchement, je crois que je n'ai jamais vu un match de tennis en intégralité dans toute ma vie. Une fois, c'est arrivé parce qu'on m'avait invité au Master
de
Bercy.
Obligé, on m'a attaché.
Voyez Orange Mécanique. Il y avait des allumettes. Voyez Orange Mécanique, bah là c'était ça. On m'avait invité à la finale des Masters de Bercy il y a 2 ou 3 ans. Donc j'ai eu quand même la joie de voir Djoko, mais ça c'était très bien pour moi parce qu'il a fait 6-0, 6-0. Enfin, il a fait un score. Du coup, ça s'est fini très vite.
En moins d'une heure alors.
Ouais, il a défoncé. Je sais même plus qui était son.
C'est vrai que c'est un sport qui peut être un peu long parfois.
Oui. En revanche. C'est un sport que j'adore pratiquer, notamment avec Olivier, parce qu'on a un niveau exceptionnel.
Quel niveau?
J'ai oublié de dire que j'avais ma balle en rouge.
Oh.
Quoi, tu l'as amené là?
Oui, mon petit pins.
Ton petit pins. C'est un sport qui demande beaucoup de concentration, en fait, autant que de physique, voire même plus.
D'endurance.
Et c'est un sport où le psychologique, c'est ça qu'on n'a pas, Olivier, d'ailleurs. Techniquement, on est assez irréprochable.
Techniquement, il n'y a rien à dire. Après, ça joue dans la tête, quoi. Psychologique. C'est juste ça.
Et en fait, je pense qu'au tennis, à partir du moment où tu doutes un petit peu, c'est fini.
Bien sûr.
C'est foutu. Beaucoup plus que dans d'autres sports, en fait.
Bah, je pense que
en ça, je trouve que c'est un sport intéressant. Après, j'avoue m'ennuyer souvent quand je regarde des matchs de tennis à la télé. Peut-être, je sais pas, le côté un peu statique.
Ça dépend des matchs. Fixe, effectivement, il faut un peu sélectionner ces
matchs. Il y a quand même des matchs vraiment de tennis incroyables où tu te demandes comment ils font pour faire ses balles, renvoyer ses balles, courir.
Il y a dans l'histoire de ce sport, il y a quand même des moments de dramaturgie anthologique.
Le truc que j'adore dans le tennis, c'est que en fait, dans un match de foot, il y a souvent 0-0 ou 1-0, donc t'as peu l'occasion d'être heureux.
Il y a rarement 0-0 au tennis, ou alors il y a un problème.
Dans un match de tennis, en fait, tu peux avoir plein de retournements et juste, tu fais une fois le break, tu gagnes un set, etc. T'as plein de moments en fait où t'es ultra content et t'es là, ça rejoue, ça rebalance, etc.
J'irais même pas à comparer parce qu'on est quand même sur un sport individuel.
Bien sûr.
Et effectivement.
Mais tu vois, t'as plein de petits moments où tu peux. Et ce que dit Mickaël sur le psychologique, c'est que en fait, tu reprends l'ascendant d'un coup sur un truc qui peut paraître très nul et d'un coup, en fait. Juste, tu gagnes ce jeu qui a été un peu plus long que les autres et ça tout rebascule et ça, je trouve ça génial.
Oui, mais la qualité d'un match se joue beaucoup sur l'adversité en fait. Donc, effectivement, si tu n'as pas d'adversité sur un match, tu rencontres finalement en fait de quelque chose qui est assez plat et sans retournement.
Puis c'est un sport, j'ai l'impression, où il y a quand même assez rarement des surprises. Enfin, on voit jamais.
Si.
Il y en a.
Oui, il y en a beaucoup.
Moi, je pense qu'il y en a beaucoup.
Ah, mais des surprises au sens où un joueur qui est classé.
Bah justement, souvenir de.
Non. Ah j'ai dit non.
Souvenir par exemple de l'incontesté Rafael Nadal à Roland-Garros qui perd contre Söderlin en demi-finale, je crois.
Après, c'est vrai
sur
que
sur un classement avec un écart.
Par exemple, moi, je bats toujours Olivier.
Oui.
Il n'y a jamais de surprise dans ce
cas de figure. C'est impossible qu'il y ait. Voilà.
Sur les dernières années, c'est vrai que surtout chez les hommes, t'as pas forcément de surprise sur qui gagne à la fin, mais t'as toujours des surprises dans le tournoi, des plus jeunes qui émergent, des anciens qu'on pensait finis qui d'un coup refont un coup d'éclat. Il se passe quand même des trucs.
Tout à fait.
Très bien.
Voilà.
Alors on va parler, vous l'avez compris, de Monica Seles, joueuse de tennis née le 2 décembre 1973. À Novi Sad, c'est en ex-Yougoslavie, actuelle Serbie. Elle est hongroise de ses parents, mais yougoslave donc par la naissance. Elle s'initie au tennis à 5 ans.
Oui.
Oui, comme nous finalement. elle s'initie avec son papa dans un premier temps, qui l'a fait jouer beaucoup, qui l'a fait jouer en partant du principe que le tennis est un jeu et que s'il a envie de continuer à jouer, c'est cool. Il lui fait faire des jeux pour l'entraîner. Par exemple, il lui met une peluche sur le terrain et il lui demande de viser la peluche. Mmh. Et à chaque fois qu'elle vise la peluche, elle peut avoir la peluche en cadeau.
Et elle imite aussi son frère qui joue déjà au tennis. tennis.
Et c'est même ça qui va lui donner l'envie d'être, d'aller plus loin.
Elle est d'une famille de sportifs.
Voilà, l'envie de se dépasser, ça va être son frère surtout.
Sa maman aussi est une athlète, je crois.
Son père fait du triple saut.
Son père fait du triple saut.
Son père est dessinateur de presse, mais fait du triple saut.
Sans avoir eu de carrière professionnelle.
Oui, ok. Mais dans ce sport individuel, notamment le tennis, c'est un grand classique que l'un des parents soit le coach de son enfant et initie entre guillemets la carrière. Ça se voit vraiment très souvent, très souvent.
Et d'ailleurs, comme elle commence à jouer très jeune, elle va avoir une raquette qui est un peu trop lourde pour elle.
C'est
et donc très tôt exactement, elle va prendre l'habitude de jouer à deux mains. En revers comme en coup droit, ce qui est quelque chose de très rare et qu'elle va en fait conserver tout au long de sa carrière.
Ça conditionne son style en fait.
Vous savez même pas que c'était autorisé de jouer à deux mains.
Marion Bartoli qui l'a fait après gagné, pendant longtemps.
C'est l'ancienne championne qui s'appelait Jen Mayer. Qui était à l'époque la meilleure et qui
on la voyait pas arriver
qui a commencé à démocratiser le port de
ce
la
style.
Raquette à deux mains et ça a été repris donc du coup par Céleste qui ne savait pas jouer autrement au départ quoi vraiment
c'est assez original de se dire qu'elle s'en est jamais départie en fait que
Est-ce que ça lui donne techniquement plus de puissance
lui donne plus de puissance mais par contre ça lui donne moins de longueur notamment en coup droit pour aller chercher une balle très loin et d'ailleurs on va voir par moment elle fait des coups droits à une main quand elle est loin de la balle en fait parce que t'as plus de longueur avec une seule main qu'avec deux.
Vous voulez que je vous dise, c'est déjà passionnant. Vous m'avez happé là.
On finit peut-être avant que ça dégénère du coup.
C'est fini. Voilà.
Alors en 85, elle remporte un tournoi qui s'appelle l'Orange Bowl que je ne connaissais pas, qui est un des plus prestigieux tournois de tennis junior.
D'ailleurs, elle a 12 ans.
À 12 ans.
Les moins de 12 ans, elle est dans la catégorie des moins de 12 ans.
Pour la petite anecdote, une certaine Steffi Graf va le gagner en 81, donc 4 ans plus tôt. On va reparler de cette dame. Retenez bien son nom. Et à l'occasion de ce tournoi, elle est repérée par un monsieur qui s'appelle Nick Bollettieri.
J'ai quelque chose à dire.
Après, tu pourras rentrer, Chloé.
Je suis un petit peu fatiguée là, avec les médicaments. Alors, Nicolas James Bollettieri est né en 1931. C'est un coach de tennis américain d'origine napolitaine. Et pourtant, il s'y est initié très très tard à la discipline, puisque c'est vers l'âge de 20 ans qu'il commence à jouer avec son cousin, qui lui fait découvrir. Donc, il a vraiment aucune formation là-dedans. Lui, après, il va rejoindre le corps des Marines des États-Unis et il va s'improviser un petit peu professeur de tennis là-bas.
Comme toi, Olivier, non ?
Il a le sens du business.
Les Marines, le prof de tennis, comme moi.
C'est ton parcours, en fait.
Voilà, c'est ça. Donc,
c'est sidérant.
J'ai rien à dire. Vous allez parler pour moi. Il va partir en 1956 du corps des Marines et il va devenir officiellement coach de tennis pour la modique somme de 1,50$ de l'heure à Miami.
Ah oui.
Là, il va aussi fonder une des premières académies de tennis, le Port Washington Tennis Academy, mais il va y travailler qu'une seule année. Et c'est en 1978.
Ça lui faisait passer une tranche aux impôts, alors c'était pas.
C'est ça.
c'était pas bien pour lui.
C'était plus intéressant fiscalement.
C'est fini.
Vas-y, continue, je t'en prie.
Donc en 1978, il ouvre la Nick Bollettieri Tennis Academy, donc c'est le camp d'entraînement que plus tard rejoindra Monica Seles. Comme on s'y attendait pas du tout. Mais comme il est un peu meilleur coach d'athlète que de business, il va vendre son académie en 87 à la IMG, la International Management Group, qui va du coup, je pense, un petit peu apaiser les tensions que Nick pouvait avoir. Je sais pas, il a un peu le sang chaud, le bonhomme, ou peut-être que sa formation de para joue un petit peu dans la formation qu'il donne aux enfants.
Peut-être que tu allais évoquer justement le côté militaire de ces entraînements.
Ouais. C'est pas mal évoqué. J'y viens pas tout de suite parce que moi.
Ça dure 2h30 en fait.
Je me suis vraiment intéressée au bonhomme parce que le tennis vraiment.
Alors en fait, on va pas parler de Monica Seles, pas du tout. On va parler de Bollettieri.
Non, mais alors en fait, j'ai été approchée par l'académie. Du coup, je fais un petit instant promo. Alors pour la modique somme de 2390€ par semaine, vous avez accès à 52 cours, dont 16 en terre battue, 4 cours couverts, un centre de fitness, 19 cours éclairés, un centre vidéo et 2 piscines.
Alors, pour être très honnête, Olivier et moi, on n'en a pas besoin. Mais après, si ça vous intéresse, voilà.
Alors, j'en reviendrai plus tard, mais il y a encore des athlètes de très haut niveau qui s'entraînent encore là-bas. Et d'ailleurs, il a formé la plupart des athlètes qui sont au premier plan aujourd'hui.
D'accord.
D'ailleurs, qui sont ces athlètes ?
Voilà. On veut des noms.
J'en ai. J'ai André Agassi. Oh. Ça, on va faire le jeu des sept familles. Hein. Vous me dites les cartes que vous avez et puis on va faire avec. Donc André Agassi, on a les sœurs Williams, Anna Kournikova, Marcelo Rios, Pete Sampras, Maria Sharapova qui s'entraîne encore là-bas. C'est là où je te disais que c'est encore beaucoup côtoyé par une certaine élite. Et Monica Seles.
Et il y a Florent Balmont aussi, hein. On en a pas parlé.
Il a fait oui, autant dire que c'est pas un Mickaël, monsieur.
Enfin, non. Et comme tu disais, Mickaël, il va avoir une manière.
C'est pas un dindon.
Il va avoir une manière de faire qui est inspirée de sa vie et des Marines, avec vraiment une méthode ultra, enfin avec une discipline ultra dure, presque plus dure que chez les militaires.
C'est pour dire.
Ah, il y a pas plus dur que Guirou.
Alors son mantra, c'est de la sueur et des larmes.
Ouais, voilà.
Voilà.
Extinction des feux à horaire fixe. Genre, tu peux parler avec ta famille qu'une fois par semaine, les voir, je sais plus, c'est une fois par mois, des punitions,
par trimestre,
ouais, des punitions si ta chambre elle est pas rangée, etc. Mais on va voir par exemple que Monica Seles, qui rejoint son académie, il y en a qui vont être critiques. En fait, quand tu lis les articles, tu vois qu'il y en a certains qui ont été très critiques de la manière dont il éduque quasiment ses futurs champions. Monica Seles, elle va plutôt, enfin, elle dit plutôt qu'elle a apprécié et que ça l'a protégée de l'alcool, de la drogue, etc. Et que ça l'a vraiment, ça l'a encadré, quoi.
Ouais. Alors moi, ça m'a fait rire parce que dans les interdictions, donc il y a pas de tabac et pas de boisson gazeuse. Oui.
Il n'y a pas de bonbons non plus.
Mais il a bien raison.
Il n'y a pas droit aux bonbons.
C'est vrai que les boissons gazeuses, il n'y a rien de pire. Bah, c'est ce qu'a tué Pantani, les boissons gazeuses.
Bah, ça,
c'est pas la coke, c'était le Perrier.
C'est,
c'est comme ça que je me suis cassé la clavicule. Hein. C'est trop, trop de Schweppes.
Exactement.
C'est complètement idiot. Hein, trop de
alors effectivement, oui, alors... Donc, tout le monde n'est pas de l'avis que cet entraînement soit beaucoup trop rude. Ouais. J'ai juste cité Jimmy Arias qui, lui, se croyait comme un esclave sous la houlette du maître. J'avais les boyaux noués par la façon dont Nick hurlait. Et à l'opposé total, on a André Agassi qui dira « Votre propre père ou mère peut vous pousser trop loin, mais venant d'un coach que vous respectez, ce n'est jamais assez. La compétition est dure, mais Nick l'est encore plus. Il faut de la discipline. »
Et c'est vrai que quand on voit les vidéos, pour souligner le côté paramilitaire, quand on voit les vidéos d'entraînement, ils s'entraînent avec un couteau entre les dents.
Faire du tennis en sautant d'un avion à 2000 mètres, je trouve ça un peu limite, mais bon. Dans la boue.
Non mais ouais, c'est clairement Full Metal Jacket, quoi. Ouais. C'est...
Ouais, c'est... Et du coup,
c'est plutôt réussi sur un certain nombre de champions.
C'est quand même une usine à champions, son académie quand même.
C'est une usine à champions. Et alors au sujet de Seles, je pense qu'en fait c'était deux personnes qui étaient faites pour se rencontrer, parce que ce que dira Nick au sujet de la jeune athlète. Alors, il parlait de son père parce que visiblement son père était vraiment problématique. Pour moi, le problème n'a jamais été Monica, c'était son père. Redoutable, il était parano, la gamine n'était pas installée à l'académie depuis 6 mois qu'il a exigé qu'elle s'entraîne sur un cours à l'écart de ses petites camarades. Et comme ça ne suffisait pas, il m'a demandé d'installer des grillages autour du terrain et d'y pendre des couvertures. Il ne fallait pas que ses copines l'aperçoivent en train de s'entraîner, il avait peur que les autres ne lui volent ses secrets.
Ah oui.
Ouais, sacrément.
Ah oui.
Enfin, souvent,
drôle de bonhomme.
Il y a souvent des parents qui entraînent leurs enfants, tu te rends compte que
ils
vont un peu loin, quoi.
Mais elle a l'air déterminée, visiblement, pendant des semaines. Elle s'entraîne sur un coup parce que elle a besoin de pouvoir le maîtriser elle-même.
De le perfectionner, en fait. Ouais.
C'est ça.
Mais en fait, ouais, effectivement, il y a certains parents ont une sorte de compensation à créer en fait un manque vis-à-vis de ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir eux-mêmes, certainement, et puis ils poussent leurs enfants, des fois même dans des extrêmes. Et ça se finit parfois dans un drame.
Oui.
Parfois.
Voilà, bon, je propose qu'on parle un peu de chacun de nos parents et savoir ce qui s'est passé dans notre vie.
Alors, faut quand même préciser qu'elle quitte la Yougoslavie en octobre 86 pour rejoindre cette académie avec sa famille.
Hein. Avec sa famille. Toute sa famille la rejoint, tout à fait ça.
Et d'ailleurs, elle va complètement s'américaniser de plus en plus.
Totalement.
On est en 86, c'est ça.
On est en 86. Ouais. Au point que, j'ai noté une petite anecdote, son parrain, vous savez qui est son parrain?
Non.
Oui, si, Eddie Mitchell.
Non. C'est pas loin.
Julio Tavares.
Capillairement en parlant, c'est pas loin. C'est un certain Donald Trump, figurez-vous.
Ah oui.
Magnifique.
Eh oui.
Okay, il est super. Partout celui-là. Hein.
C'est clair. Chaque épisode, on le sort, c'est pire qu'Hitler.
Ouais. L'épisode de Tyson et tout. Quoi.
Toujours est-il que ça porte ses fruits assez rapidement.
Exactement, puisque le 7 mars 1988, elle fait ses débuts sur le circuit WTA. Hein, donc, c'est le
circuit féminin.
C'est la première ligue féminine.
À l'âge de 14 ans, hein, donc au tournoi de Floride de Boca Raton, hein, qui n'existe plus depuis 1995 au passage. Et au premier tour, elle affronte une Canadienne. Hélène Kélissi.
Oui, qui est 31e.
La mère des dragons.
31e.
31e mondiale.
La maman des dragons.
Et elle la bat tout simplement en 2-7. Oui. Elle gagne le tournoi. Et là, tout de suite, déjà, elle impressionne un petit peu. Dès 14 ans, elle a déjà ce qu'on va appeler tous ces rugissements qui vont faire beaucoup parler. Un coup droit demain assez,
dévastateur
et majestueux.
Une frappe terrible. Quoi.
Une frappe terrible et elle continue son petit bonhomme de chemin ensuite.
Et elle se gagne aussi un surnom au passage.
Pas encore, mais c'est vrai que plus tard, avec ses rugissements, spoiler, on va l'appeler Miss Grunts.
Grunts.
Voilà. Mais c'est assez intéressant de voir tous les débats que vont.
Ça a été un objet de crispation, presque. Ça allait très très loin.
Ça a été interdit dans certains tournois.
Elle a dû s'empêcher de le faire.
On l'a rappelé alors. On va en reparler, effectivement.
Ouais. C'est intéressant d'ailleurs.
Le 30 avril 1989, Céleste gagne son premier tournoi à la surprise générale à Houston face à Chris Evert. Quatrième joueuse mondiale et de 19 ans son aînée, quand même, rien que ça, en 3-7, donc 3-6, 6-1, 6-4.
Elle a 15 ans. C'est toujours impressionnant, je trouve, dans ces sports de voir à quel point ils sont. Enfin, c'est des enfants, quoi, vraiment. Ouais.
Alors, surtout quand je réfléchis, comme moi j'étais à 14 ans.
Ouais, c'est clair.
Mais surtout à l'époque.
J'étais pas prête à gagner ce genre de tournoi
du tout.
Il faut savoir que ça a été un peu mieux géré maintenant par la WTA qui oblige. Les jeunes joueuses à avoir qu'un certain nombre de tournois maintenant dans l'année.
D'accord.
Pour justement parce que face à cette starification très très précoce,
il a failli arriver.
Il y a une joueuse qui notamment jouait beaucoup contre Céleste qui s'appelle Jennifer Capriati qui était une prodige à 13-14 ans aussi qui a complètement péter les plombs quoi. Et beaucoup de joueuses pétaient les plombs à 14-15 ans. et du coup ils ont vachement
on protège l'enfance maintenant d'un jeune champion
tout à fait.
On essaie de les protéger au maximum
Alors, mais c'est le 3 juin 1989 que le grand public découvre Monica Seles au tournoi de Roland-Garros. Écoutez,
l'exploit du jour, pour moi en tout cas, c'est la victoire de Monica Seles sur Zina Carlson, qui était tête de série numéro 4.
Oui, le central a été d'ailleurs sous le charme du tennis féminin aujourd'hui, puisqu'il y a eu Sabatini, on l'a vu, et Provis, et puis il y a eu la tornade Monica Seles, qui a fait sa première grande apparition sur le central de Roland-Garros, c'est le moins que l'on puisse dire, elle y a passé 73 minutes, je crois. Eh bien, elle n'a pas manqué son coup, et je crois que tout le monde, tous ceux qui ont assisté au match sont encore sous le charme de la jeune Yougoslave. Vous allez voir ça. Monica, pour sa première apparition, les bras chargés de fleurs, ça c'est une première surprise pour le public qu'elle a déjà conquis grâce à son tennis, pour le plaisir de tous, ou presque, car Zina Garrison, son adversaire, n'apprécie pas vraiment, et Zina est huée par le public.
Bah oui, Zina, elle est mauvaise.
Elle est mauvaise.
Mauvaise perdante, mauvaise joueuse.
On va expliquer
le contexte.
Elle amène des fleurs sur le terrain offrir au public.
C'est un peu folklorique.
C'est un peu tordre, peut-être.
Ouais,
ça fait très mise en scène.
Dans les grands tournois, dans les tournois du Grand Chelem, en général, il y a des protocoles qui sont hyper stricts. Et ça l'est un peu moins aujourd'hui, notamment à Roland-Garros. Mais si vous observez de temps en temps les autres tournois, comme celui de Wimbledon, où les tenues vestimentaires sont blanches.
Et c'est
un règlement qui est strict. À Roland-Garros, c'était le cas avant. Et puis, il y avait tout un protocole qu'il fallait respecter. Là, elle pète un peu le protocole.
Oui, et elle va essayer d'en offrir une de ses fleurs à son adversaire qui va refuser et qui va se faire huer par le public.
C'était plutôt sympa, c'était pas une provoque.
Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de refuser.
Oui, mais après de là à se faire siffler pour ça.
Oui, elle se fait siffler par le public.
Je me demande si elle l'a pas un
enfin,
peu.
Pas celle, on précise, c'est son adversaire.
C'est Zina,
C'est Zina qui refuse, mais je me demande si Monica a pas un peu envie qu'elle refuse justement pour que les gens la sifflent et que ça la perturbe un peu. Moi, de ce que je vois les images après, elle a vraiment pas l'air concentrée, Garrison.
Ça te sort de ton match, on peut aussi comprendre l'agacement.
Ça perturbe.
Mais après, quand ensuite elle vient avec des pop-corn, là c'est un peu trop.
Les hot dogs. Chichi, chouchou. Alors, le match passe plutôt pas mal pour Céleste, 6-3-6-2. Il faut préciser quand même que Zina Garrison était tête de série numéro 4.
Elle la déglingue. On commence à voir un petit peu tout ce qui va faire le jeu magnifique de Céleste, sa faculté à choper les angles sur le terrain fabuleux, là où, pour être sûr que l'adversaire ne puisse pas renvoyer la balle, sa très très forte force de frappe,
Et
le fait qu'elle est quand même incroyable. De toujours mettre la balle dans le terrain adverse. Il n'y a
surtout,
jamais de sortie. Quoi.
Son grand point fort, c'est son revers d'une très grande précision et d'une grande force, les deux.
Tout à fait.
Elle peut aussi bien accélérer qu'amortir avec son revers. Enfin, c'est terrible. Garrison en fera les frais. Elle arrive en demi-finale. Oui. De ce tournoi de Roland-Garros.
Le 8 juin 89.
Ouais, contre... Où elle affronte une certaine Steffi Graf. Qui c'est cette dame, Olivier ?
Il y a beaucoup trop de F dans son nom.
Ouais, Steffi Graf, deux F au prénom, un F au nom de famille.
Oui,
Steffi Graf qui...
La sœur d'Orto d'ailleurs.
Ouais, et qui, malgré ce qu'on en dit, elle ne vient pas de Corée, Graf.
Oh, voilà. Ping-pong. Ah, Mickaël l'a même pas entendu tellement il rigole. Encore sur sa propre blague.
Portographe.
C'est une joueuse allemande, ouest-allemande très exactement. Elle est née en 1969. Donc en fait, elle n'est pas si beaucoup plus âgée que Céleste. Elle a 21 ans au moment de l'affronter. Elle a 4 ans de plus, qu'elle. Elle est entraînée par son père. Donc voilà,
comme
son père,
disait,
elle aussi.
Souvent.
Géo.
Géographe. Et
autographe.
C'est sa mère.
Arrêtez s'il vous plaît.
Et donc elle a un très très fort coup droit. On l'appellera Mademoiselle Coup droit. Ce qui est pas terrible comme surnom, je te l'accorde.
Moi j'attendais une autre. Hey,
salut, t'es Mademoiselle Coup droit. C'est moi. Et
c'est vraiment le pire surnom de l'histoire du sport.
Clair. Et
Monsieur Coup de pédale.
Elle est aussi extrêmement. Et elle est très rapide. On l'appellera aussi Mademoiselle très rapide. Et elle a des nerfs d'acier. On l'appellera d'ailleurs Mademoiselle nerfs d'acier.
Mais elle faisait partie des Monsieur Madame, non?
En fait, c'était un petit bonhomme. C'était une petite madame rouge avec ses petites pattes.
Elle avait un super sourire.
Alors en vrai elle blague pas du tout. Steffi, ouais. Elle est quand même numéro 1 mondial depuis 87. Elle a un palmarès complètement fou. Faut savoir que c'est la joueuse la plus jeune de l'histoire à avoir été classée mondialement. Elle a été 124e mondiale dès 14 ans.
Même.
Ah oui.
Elle a gagné déjà deux fois Roland Garros avant d'affronter en demi-finale Monica en 87 et 88. Et beaucoup plus impressionnant encore, elle est la seule à avoir fait le Grand Chelem doré. Alors, le Grand Chelem,
qu'est-ce que c'est?
Le Grand Chelem, c'est qu'il y a quatre tournois majeurs au tennis. Il y a l'US Open, il y a l'Open d'Australie, il y a Roland Garros évidemment, et Wimbledon en Angleterre. Quand on gagne les quatre, dans la même année, on fait ce qu'on appelle le Grand Chelem. Mais elle a fait le
Grand Chelem. En fait, le Grand Chelem, c'est dans sa carrière.
Oui.
On gagne les quatre dans une carrière. Le Grand Chelem calendaire, c'est la même année. Ce qui est
la même année, ce qui est
en fait.
Impressionnant. Oui. Parce que voilà, c'est comme si tu gagnais le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne.
Mais précisons pourquoi, c'est que les surfaces changent dans ces tournois et que ça veut dire que.
Ouais, il travaille dans le BTP. Ouais. Hein.
Non, mais il a raison, ça veut dire.
Merci
tout monde,
Sarah.
Tout le monde n'est pas aussi
à l'aise.
Oui, c'est-à-dire, par exemple Roland Garros est une surface beaucoup plus lente que Wimbledon, qui est une surface rapide sur herbe. Elle gagne donc le Grand Chelem doré.
Les plus endurants gagnent les Roland Garros.
Les plus complets, comme le pain, arrivent à faire le Grand Chelem.
Non, j'en veux plus. On va arrêter.
C'est là que même moi, je suis épuisé. Donc, ce Grand Chelem doré. On était sur le Grand Chelem doré. Donc, Grand Chelem doré, c'est le Grand Chelem calendaire, les quatre la même année, plus la médaille d'or aux Jeux Olympiques qui est cette année
à
Séoul.
C'est en Corée.
C'est grave. En Corée. Grave. j'ai...
C'est l'enfer. Ils sont tous bourrés. Je suis seul.
Non. Donc elle gagne en chorégraphe. faut savoir que elle fait entre 87 et 90 13 finales du Grand Chelem consécutives. En gros, elle est extrêmement forte et on ne donne pas l'ombre d'une chance à Monica Céleste.
Alors, pour rajouter un ou deux trucs quand même.
Reviens, Chloé, reviens.
Steffi Graf, elle est quand même depuis des nombreuses années avec André Agassi, qui est un
actuellement.
Autre
ah oui, voilà, c'est la Paris People.
Ça, alors, je pense que c'est quand même important.
Elle a deux enfants.
Elle a combien de followers aujourd'hui?
Je ne sais pas.
Est-ce qu'elle en a plus que ta cousine ou pas?
Je ne sais pas si elle est sur Instagram. Ce n'est pas ma cousine. On perd les auditeurs là, on les perd, je vois. Et on va dire quand même.
Ah, il y en a trois encore.
Ça va être la première confrontation entre Graf et Céleste. Mais on va dire que ça va être vraiment des adversaires comme Nadal et Federer, etc.
C'est une rivalité, le mot d'anthologie.
Peut-être dire un mot un peu culture, un casus belli, comme on dit.
Pas mal.
C'est pas vrai.
Un cassis béni.
Tu feras attention à ta poche, hein, d'urine. Tu sais, à chaque fois tu la changes.
Oui.
Voilà, voilà.
L'intermède musical n'arrive pas
et
tout
donc,
de suite.
Oui, ma poche.
Non, non, mais concentrons-nous. Donc, nous sommes le 8 juin 89, demi-finale de Roland Garros. Steffi Graf contre Monica Seles.
J'ai roulé sur ma poche.
Voilà, voilà. Alors, voilà.
Voilà. Steffi Graf qui vient de gagner l'Open d'Australie, hein, quand même, au Suscat-Suscat. Elle paraît invincible. Graf remporte le premier set assez facilement, 6-3.
Oui, mais ça va se compliquer un peu dans la deuxième manche.
Exactement.
Puisqu'elle va multiplier les fautes et elle va laisser filer son jeu de service 3 fois.
Oui, quand même.
Et elle va perdre donc 6-3 le deuxième set, donc un set partout. Il en faut donc un troisième pour les départager.
Il faut un troisième. D'ailleurs, il demande à l'arbitre, monsieur, il faut un troisième.
Parce que mademoiselle voilà. Coudroy voilà. Fait chier.
Parce que là, on a gagné un partout, il faut un troisième. Exactement. Alors l'arbitre annonce, ah, il va y avoir un troisième.
Ben voilà.
Et dans le troisième, on est à un jeu partout.
Eh oui.
Oui.
Et Graf, Steffi Graf, doute. Oui. L'Allemande se fait breaker. Alors breaker, on explique peut-être ce que c'est pour les gens qui ne savent pas.
Oui. C'est prendre le service de se faire prendre le...
Voilà. En fait, c'est gagner un jeu quand c'est l'autre qui sert.
Oui.
Voilà. Ce qu'on fait tout le temps avec Olivier, en fait, on s'entre-break continuellement.
Mais se faire breaker, ça veut dire perdre
comment
son jeu de service.
Voilà, perd son jeu de service, exactement.
Oui.
Elle se fait breaker, et là, petit événement, oui. Son coach, qui n'a en théorie pas le droit de le faire...
Et c'est toujours le cas, on n'a pas le droit de faire des signes à ses joueurs sur quand ils sont sur le court.
Voilà, alors il a un paperboard, bien dissimulé, et lui donne quelques conseils tactiques.
T'es sûr que c'est pas un cinématographe ?
Sauf en Coupe Davis.
Super 8, super 8. Et donc du coup, il lui dit de faire très attention au revers de Céleste qui est impitoyable. Et Steffi Graf va finalement reprendre la main sur le jeu et finalement gagner le troisième set 6-3.
Assez facilement finalement.
Mais elle n'est pas du tout contente de sa prestation
elle
sort très mécontente du terrain et elle ne va même pas s'arrêter auprès des journalistes tellement elle s'en veut. De sa prestation.
Ouais, là, elle est mauvaise cliente quand même.
Oui,
mais en même temps, petit caractère.
En même temps, je veux dire, elle se bat contre une novice, si tu veux. Céleste, elle est encore pas connue à ce moment. Justement, elle va devenir célèbre grâce à ce match et à cette prestation à Roland Garros. Parce que si la gagnante de Roland Garros, d'ailleurs, qui ne sera pas Steffi Graf cette année-là, elle va perdre contre Arantxa Sanchez.
Tu peux le redire là un petit peu
Arantxa Sanchez.
Si tu le dis bien, moi, j'aurais même pas tenté.
C'est un prénom qui est très courant au Pays
Basque. Qui est une espagnole de 16 ans, qui est très jeune aussi.
Oui, d'ailleurs, c'est l'année un peu des jeunes qui gagnent parce que la même année, c'est Michael Chang, le tennisman américain,
avec
et son service à la cuillère, qui gagne et qui a 16 ans aussi, enfin, je ne sais plus à vérifier, mais qui est très très jeune aussi.
Ouais, la fameuse séquence, ouais, effectivement.
Et donc du coup, c'est malgré tout Monica Seles que le public retiendra, hein, qui va.
Elle devient un peu la chouchoute. Ouais.
Exactement.
Et surtout, ça lui permet. Alors, elle fera pas grand chose à Wimbledon et à l'US Open derrière, mais malgré tout, en fin 89, à 15 ans et 9 mois, elle accède pour la première fois au top 10 du classement WTA.
Du classement des meilleures joueuses.
Des meilleures joueuses du mondial.
De tennis. Voilà, ce qui est pas mal.
Le 11 septembre 89, effectivement. Quelques temps après, quelques mois après, Chloé, elle quitte la Bolitieri Academy.
Oh, ça a brisé le cœur à tout le monde, cette histoire.
Oui, oui. Elle est en train de pleurer, Chloé.
Elle en chiale.
Je vais rentrer chez moi.
C'est parce que t'es à côté du NES que ça te fait pleurer.
Mais non, c'est ma poche, c'est rien.
Non. Alors,
on a mis la serpillière sur ta droite, Chloé. N'hésite pas à t'en servir.
Alors, le 20 mai 90... une semaine avant le début de Roland Garros, historique en tout cas dans la carrière de Céleste, et justement elle bat Steffi Graf pour la première fois au tournoi de Berlin.
En finale.
Qui est un tournoi de terre battue, Younes.
Oui, tout à fait. Il fait partie en fait du circuit de la terre battue qui commence plutôt en été, enfin au printemps.
Younes, tu vas finir à stade 2, je pense. Un jour.
Mais il me faut des bottins pour que je puisse m'asseoir dessus. En fait.
Et
tout à fait, ouais.
Elle gagne contre Graf, c'est un petit événement. Graf qui reste sur 66 victoires consécutives, quand même.
Je pense assez rare en tennis.
Ouais, je me demande si c'est pas à l'époque, à un moment donné, un record. Faudra voir avec Nadal, faudra voir avec maintenant.
Voyons dans un premier temps avec nos auditeurs, peut-être qu'ils pourront.
Si jamais, n'hésitez pas à nous le dire.
Si vous connaissez mieux le tennis,
voilà. Roland Garros, Steffi Graf.
Pourquoi tu poses des questions comme ça
dures. Ta gueule.
Elle l'a gagné plusieurs fois.
Elle l'a gagné 3 ou 4 fois, je pense.
Pas mal.
Et,
là, elle l'avait déjà gagné deux fois à cette époque.
Ouais, Et donc voilà, donc elle bat Steffi Graf. Elle devient, avec du coup Steffi, grande favorite du Roland Garros qui arrive quelques semaines plus tard.
Oui.
Voilà, donc là je vous tends une perche, donc quelqu'un ensuite derrière se la prend et continue à parler, mais je vais continuer à parler, c'est mais pas c'est donc quelques donc
Roland Garros 90 arrive.
Oui oui, donc elle le bat quand même en 63 minutes 6-4 6-3 à Berlin alors il y a un petit, moi il y a une anecdote qui m'a fait un petit peu voilà, que j'aime beaucoup, c'est que pour se donner du courage, Monica, elle se dit qu'à chaque victoire, grande victoire, elle se paye un cadeau.
Oui. Ah oui.
Voilà, elle
souvent
se paye
un vêtement.
Elle a donc,
comme, ça,
comme nous, comme la dernière fois quand je t'ai battu, Mickaël, exactement comme moi, elle s'est payé une BMW après avoir battu Steffi Graf.
Bah ça va. Voilà.
Vraiment des points communs. Voilà.
Hein. Ouais, ouais, pareil. Ouais.
Vous avez plein de points communs.
Alors, le 5 juin 90, enfin, en 90, débute Roland Garros sous des bons auspices, puisqu'elle vient juste de battre la numéro 1 mondiale, donc elle est en confiance. Ça passe quand même ric-rac en quart de finale,
oui.
Où elle tombe
oui.
sur une adversaire coriace, hein, Manuela Maleva. Oui. Tête de série numéro 6, alors qu'il faut préciser que Monica Seles rentre dans la compétition en tant que tête de série numéro 2 déjà.
Oui.
Hein, donc
elle est ultra favorite.
Voilà. Ouais. Tête de série, on explique peut-être ce que c'est, non
Les têtes de série, c'est des têtes de série. Donc,
merci.
Merci. Merci Olivier.
Non, c'est des joueuses à qui on donne, ou des joueurs d'ailleurs, un numéro, le numéro 1 étant le meilleur, le numéro 2, etc. Et ça permet aux favoris de ne pas se rencontrer voilà. lors des premières manches.
Pas seulement aussi les premiers tours.
Que, voilà,
ils sont
parce
un peu dispensés des premiers tours.
Les tableaux, alors ils sont dispensés, les tableaux, le tirage au sort se fait à l'avance.
Oui.
Donc, par exemple, Steffi Graf étant tête de série numéro 1, elle est dans le tableau du haut. Et Monica Seles étant tête de série numéro 2, elle est dans le tableau du bas. Elles ne pourront se rencontrer, si elles se rencontrent, qu'en finale, si les deux vont en finale.
Pour objectif de préserver un peu le spectacle jusqu'à la fin et d'essayer de créer un suspense qui montrera de...
Oui. Pour que les plus forts s'affrontent à la fin.
Alors,
réveille-toi, Younes.
Oui.
Ce match contre Maliva, il va être assez important pour elle, puisqu'elle va perdre le premier set 6-3 à la surprise générale, pour gagner facilement le deuxième 6-1. Et elle sera ensuite dominée 4-2 dans le troisième set.
Ouais.
Elle revient à 4-3, à 4-4, et elle finit par s'imposer finalement 7-5 au troisième set.
Le 10 juin 90, elle rencontre Steffi Graf. Une finale très attendue cette fois-ci, parce qu'évidemment, Monica Seles, on l'attend au tournant. Deux semaines seulement après la finale de Berlin, donc ascendant psychologique, avantage psychologique pour Seles. Le match commence très bien, puisque Seles mène 3-1 au bout de 14 minutes de jeu. Le premier set va jusqu'au tie-break.
Qu'est-ce que c'est ?
Tie-break, c'est quand il y a. Normalement, tu gagnes un set en gagnant 6 jeux. Mais il faut avoir deux jeux d'écart. Donc, tu peux gagner que s'il y a au moins 6-4. Mmh. 6-5, tu ne peux pas avoir gagné. Il faut aller à 7-5. Et s'il y a 6 partout, on joue ce qu'on appelle un tie-break, une sorte de jeu décisif qui, lui, se joue en 7 points. Mmh. Alors que les jeux de tennis se jouent en 4 points, en fait. 15-0, 30-0, 40-0 jeux.
Et là, c'est le tournant du match, puisque Steffi Graf commence très bien ce tie-break en menant 5-0.
Oui.
Autant dire que c'est quasiment impossible à remonter.
Ça apparaît dans la poche. Quoi.
Surtout qu'elle va mener 6-2, c'est-à-dire qu'elle a une balle, elle a une balle de la victoire, hein, de remporter le set.
Et elle a 4 balles,
elle a
4
balles de
match.
De 7, parce que c'est le premier set.
Oui.
Mais Céleste va enchaîner 6 points d'affilée.
Oui.
Et c'est là qu'on voit qu'elle a un gros mental.
Gros mental. Et en fait, c'est ce qui va un petit peu faire sa particularité et sa force, c'est que Céleste, c'est quand elle est dans la difficulté, en fait, qu'elle est la meilleure, quasiment.
Toujours, elle a un mental d'acier aussi.
Alors que Steffi Graf va un petit peu craquer, notamment parmi les points perdus, elle va faire une double faute.
Ce qui lui arrive jamais.
Et c'est finalement Céleste qui va remporter ce premier set 7-6. Ensuite, dans le second set, elle enchaîne. Elle finit par gagner 6-4 le second set. Elle devient, à ce moment-là, la plus jeune joueuse de l'histoire à remporter Roland-Garros à 16 ans et demi. Alors,
c'est très bien.
Gagner Roland-Garros, évidemment, c'est magnifique, c'est une magnifique récompense, mais la plus belle récompense, ça reste le Pins FR3 offert par Nelson Montfort. Écoutez.
I just want you know because we covered all with between Anten 2 and FR3 we covered the whole tournament and this
oui,
is FR3 the little badge FR3
est-ce qu'elle peut le mettre en direct
give you a rendez-vous
okay. Est-ce qu'elle peut le mettre en direct
on donne le petit oui maybe you can put it on yes
Régis Forissier
yes
attention de pas vous piquer voilà
there we go c'est le petit badge FR3 Michel
magnifique excellente idée Nelson bravo
There we go.
Super, okay. Regardez cette image magnifique, FR3 et Monica Seles. Elle a été magnifique, merveilleuse. Merci Monica, et ce petit badge FR3 lui va très 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 bien.
Ah. Alors, donc là, ne vous y méprenez pas,
ce n'est pas le tournage d'un porno.
La consécration d'une championne.
Après,
badge FR3. On est à la limite de du hashtag MeToo. On le force à mettre ce petit pins alors qu'elle n'a pas du tout envie.
Moi, ça
de
m'a fait
le petit pins FR3.
Déjà, moi, j'ai hurlé de rire en voyant cet extrait. Ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ce sketch des Inconnus. Je crois que c'est Florent Pignon, c'est une course cycliste en fait, où il y a un journaliste qui arrive en moto de Stade 2 et qui essaye de faire l'interview du cycliste qui est en pleine ascension, tu sais, qu'on peut plus, qui dit ah, laissez-moi tranquille et tout. Puis lui, au bout d'un moment, le journaliste fait ah, on peut pas vous laisser comme ça, voici l'autocollant T2, il lui colle dans la gueule et du coup il se casse la gueule.
C'est exactement ça, quoi.
C'est vraiment ça, quoi. This is the FR3 badge FR3.
Ça lui va très bien.
Elle a voulu arrêter sa carrière là-dessus parce que c'était la consécration.
Mais oui.
Non, et puis l'autre derrière qui lui dit, vous pouvez lui demander de le mettre en direct, s'il vous plaît. Mais
ouais. Ce qui est marrant, c'est Nelson Montfort. Il dit, c'est le badge antenne de... Michel, c'est le badge. Attends, je vais vous remettre ça.
Magnifique. Excellente idée, Nelson. Bravo.
Oh, there we go.
Super.
There
regardez cette image magnifique. FR3 et Monica Seles. Elle a été magnifique. Voilà.
There we go. C'est le petit badge FR3, Michel.
Ouais. Magnifique. Excellente idée, Nelson. Bravo.
Oh. There we go.
Super. Regardez. Magnifique.
Et il lui dit
Michel,
quand même...
c'est le petit badge FR3, Michel.
Attention, Nelson, de ne pas vous piquer.
Oui. Très important.
C'est vraiment, mais c'est génial.
Ah, on a plus de grands moments comme ça à la télévision.
Et je sais pas, on l'avait déjà eu, Nelson Montfort, jusqu'à présent dans
le show. Je crois pas, c'est sa première fois.
Bienvenue à lui.
Quelle entrée fracassante.
Allez, bravo.
Bravo. Quelle entrée fracassante.
Alors, de cette finale va naître une grande rivalité parce que Steffi Graf est dégoûtée de ne pas avoir eu le pin
CFR3.
Je voulais le pin CFR3.
Non, Olivier, c'est non.
Oh, bravo, Olivier.
Pardon, on s'en souvrait, ça va, on l'a l'habitude.
De ce match va naître une grande rivalité qui va se prolonger l'année suivante.
On
quand
vient
Céleste...
de perdre 70 ans d'amitié franco-allemande grâce à toi. Merci Olivier. T'as tout foutu en l'air.
Cette rivalité va se prolonger quand Céleste va shipper, c'est un mot que t'aurais pu utiliser, Younes, la première place au classement WTA à l'Allemande.
Oui, elle a 17 ans et 3 mois à ce moment-là, et je crois que c'est en mars 91.
Ouais,
le 11 mars, exactement.
Et donc elle va devenir première fois première mondiale.
Et oui,
voilà.
Et oui, parce qu'elle gagne l'Open d'Australie en 91.
Ouais.
Voilà, donc c'est très bien pour elle.
On est assez
contents, bravo elle. Et d'ailleurs l'année 91 où elle va pratiquement tout gagner et elle, du coup logiquement elle devient à l'époque la plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Elle sera juste
détrônée
par Martina Hingis, la petite Suissesse Martina Hingis, à 16 ans et quelques mois. Donc voilà, c'est Steffi Graf l'a un peu mauvaise.
Qu'elle met fin à je ne sais plus combien de semaines,
186
semaines consécutives à la tête de numéro 1 mondial.
Ça
de
fait 3 ans et 7 mois quand même,
ce qui est quand même assez extraordinaire.
Oui.
Et elle va donc Céleste va occuper la place pendant 21 semaines avant de se faire re-shipper la place par Graf deux fois au cours du mois d'août, mais Céleste finit toujours par revenir et elle va finir par occuper très durablement ce classement jusqu'aux événements de 93 sur lesquels nous reviendrons.
Mais grâce à ce duo et ce duel en fait, effectivement la lumière sur le tennis féminin a été était faite et on a quand même assisté à de belles batailles en fait.
Exactement.
C'était une très belle,
belle année.
Du coup, j'ai vu pas mal de petits résumés de matchs, pas tout quand même, faut pas exagérer. Mmh. Et c'est vrai qu'il y avait des joueuses assez assez incroyables, toutes très jeunes.
Entre
Graf évidemment et Céleste, mais il y avait Arantxa Sanchez, Capriati aussi, Sabatini, etc. Il y avait des très belles joueuses à l'époque.
Alors elle bat justement Arantxa Sanchez. Je le dis bien, hein. 6-3, 6-4 en finale de Roland-Garros. Ouais. Donc elle conserve son titre.
Et on peut dire aussi en parallèle qu'elle continue un peu à se starifier. Elle va avoir des grandes marques. Elle dit je me verrai bien à Hollywood, etc.
Enfin, ouais, puis elle se la pète avec son pin CFR3.
Et ça va devenir. J'ai lu que je sais pas où que ça allait, qu'elle a été appelée la Madonna du tennis.
Oui, ouais, c'est marrant.
Ouais. Bah, c'est mieux que Madame Coudroy. Hein.
Oui, que Madame Coudroy.
Ah, tout d'un coup, ouais. Ouais.
Alors, elle ne participe pas à Wimbledon, en revanche,
eh oui.
Pour des raisons qui restent encore jusqu'à ce jour mystérieuses.
Il y en a qui disent qu'elle, qu'elle est enceinte, mais apparemment, voilà. Ça, c'était faux. Puisque...
Bah, alors, on connaît les tabloïds anglais, hein, ils voilà. Répandent les pires rumeurs. Alors, ils disent qu'elle était enceinte, éventuellement, ils parlent d'avortement. Maladie honteuse, j'imagine qu'à cette époque-là, maladie honteuse, ça veut dire sida, non?
Je sais ouais, pas. Je sais pas, ouais, en tout cas.
Ou la ch'touille, je sais pas.
je crois qu'en fait, elle est rentrée en dépression très très forte à ce moment-là, parce qu'elle a perdu son badge à 3. Et que du coup, tant qu'elle n'avait pas remis la main dessus, elle pouvait pas jouer, quoi. Elle a fait l'impasse à cause de la perte de son match sur Wimbledon, mais elle est quand même revenue. Elle l'a retrouvée pour l'US Open.
Elle avait retrouvé son gris-gris.
Elle gagne d'ailleurs l'US Open, donc comme quoi ce petit arène n'aura pas fait beaucoup de mal.
Oui, complètement, oui.
Oui, alors 3 tournois du Grand Chelem sur 4. Bon, c'est pas mal quand même, c'est pas aussi bien que Steffi Graf.
Elle a pris une amende, on précise juste que la WTA a sanctionné d'une amende.
Parce qu'elle a pas participé. On peut faire ça.
Bah oui, complètement. Parce que finalement, tu fausses un petit peu le spectacle.
Ouais, d'accord.
Et tu, pour des raisons non expliquées, tu refuses de participer à un tournoi. Donc, si c'est pas une blessure, tu te retrouves finalement amendé, ouais, forcément. Ouais.
Somme qui lui sera remis quand les organisateurs apprendront que c'était parce qu'elle avait perdu le film CFR 3.
Ils lui diront on est désolé, il y avait une
on est désolé, on savait pas.
Il y a une mésentente, désolé.
Arrive 92.
Oui.
Ah, donc 91, année assez incroyable pour lui, pour elle. je pensais au badge, pardon.
il voyage à travers le monde. Ah,
oui, c'est ça. Il voit du pays, le bougre. Et 92, elle remporte directement l'Open d'Australie, qui est le premier tournoi dans l'ordre.
De l'année, au mois de janvier.
Dans l'ordre de l'année, en janvier. C'est son 5e tournoi du Grand Chelem. Et c'est aussi, à ce moment-là, la sportive la mieux payée, d'ailleurs, tout sport confondu, la sportive la mieux payée du monde.
La sportive féminine.
La sportive, j'ai dit.
Oui, non, mais c'est une question, c'est pas genre de tout le.
Ah oui, non, malheureusement. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'écarts, notamment dans le tennis d'ailleurs, où les hommes sont.
Je suis pas sûr, justement. Le tennis, à l'époque, j'ai un chiffre qui arrivera un petit peu plus tard, mais le tennis est plutôt égal. Alors, par rapport aux autres sports masculins, comme le foot, évidemment, elle est encore, j'imagine, à des années-lumière, mais au tennis, je crois pas qu'elle gagne beaucoup moins, voire peut-être plus.
Parce qu'en fait,
t'es payé la victoire au tournoi, en fait. C'est pas comme un footballeur qui a un salaire.
Oui, mais je crois que
la victoire au tournoi est vraiment
moins grande.
En tout cas, peut-être maintenant la parité existe, ce qui serait bien. Mais
en fait, elle a gagné tellement de tournois que possiblement elle a pu accumuler plus de richesses que.
Ah, forcément, elle est mieux payée que nous, mais vu qu'on gagne aucun tournoi. Mais
et le calendrier,
on a même pas un pin de CFR3.
Non, mais pour préciser, en fait, le calendrier féminin et le calendrier masculin s'entremêlent pendant le même tournoi et en fait, on a toujours un jour d'écart, mais on a quand même l'attention du public qui est quasiment au même moment. Donc, on n'a pas un tournoi qui est organisé féminin en parallèle pour quelques semaines d'écart. C'est vraiment en même temps que ça se joue. Donc, le public finalement est là. Donc, les dots. Et
quelqu'un a compris ce que tu nous laisses là.
C'est qui
les dots sont les quasiment dots. Les mêmes. Donc les sommes peuvent se ressembler. Ouais.
En d'accord. Tout cas, à ce moment-là, elle est à 4,3 millions de dollars grâce à tous ses titres.
Oui, ouais. C'est quand même
pas mal.
Ce qui est un peu plus que.
J'ai fait le calcul. Voilà, j'ai fait le calcul. Bah, ça fait 4 millions 3 de plus. Pour être très précis.
Et un pizz.
Et en plus,
inestimable.
Donc, 92 janvier, elle remporte l'Open d'Australie et arrive le Roland Garros. Elle a gagné déjà les deux Roland Garros précédents et elle va, on peut le dire, elle va tout de suite arriver en finale. On le dit ça comme ça.
Oui.
Elle peut dire qu'elle arrive tout de suite en finale contre chorégraphe Mademoiselle Coudroy, Steffi, la nerd d'acier.
Alors elles se sont évitées en Grand Chelem. Par contre, elles se sont quand même rencontrées deux fois en tournoi mineur à San Antonio et Hambourg pour deux victoires de Steffi Graf.
Oui.
Et ce qu'il faut, c'est gagner les finales de Grand Chelem.
Oui,
c'est tout
à fait,
important.
Sarah. Tout à fait.
Donc effectivement. Et donc le 6 juin 1992 débute la finale de Roland Garros entre Steffi Graf et Monica Seles. Track. I move it like Barry Allen without the chemicals and lightning. It's frightening how much of a gap is in between stuff I think's talent and pipe dreams that might be malice. But that's because I hate ballads. When MC's on, I won't have it because that shit's too slow. I'm here to make crowds lose a facet. A conscious and old Duke's a hazard. Episode, edible, metaphors, never gonna let it go. Legible, emerald in his soul. Anyone who
once a listen improbable about tough to mission impossible to catch up. You're missing about 10 years worth of practice and performance. Need a personal trainer, speech therapist, and acting coach. All I need to retain our credit awareness in a band that rocks the most. To the point of disclaimers, deep warning, cruising than most can boast. Cause you ain't say much and talk about stuff that I just won't promote. No, like all that gold just might get stole if you show off for peers. Know that that watch you bought will be worth less in a year. Save your tax receipt so your shit won't be in arrears. But I'll take your spots since you forgot rats how you got here. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. I don't know sports and yet I still score. But not with your date, cause I got one. A night with the mic, feeling right, cause I talk some. Suave type shit, you can't resist, you'll wanna cop some. More by the end of the night, tell your friends it was awesome. A good time had by all and not even close to being cocky. My style's kinda off and it's all because you're sloppy. And I'm getting off like the law could never stop me. Thermodynamics, physics, or the ball, yo, they all just get a hockey stick to the net, cause I rep my country awfully. Good in the wrong way, so I'll stay my ass off these down and pick another suckers, cause I'm not a motherfucker that holds anything back on the mic. Never clever for the sake of being it, cause the culture suffers. You'll see words from the last three bars of mine defines motherfucker never clever, culture suffers. But the rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Yo, I don't know sports and yet I still score. Somehow, some way, keep coming like Prince Poe and Pharaoh Macho. The principle is never stop. Rocket fueling and then I launch at a speed that no speed trap's gonna capture poor rappers. And I'm not friends on the finances, just to the fact that lines get this. Due to a lack of variety, society in its entirety must tidy songs all day quietly. That's shiesty, your true sobriety. Retire, please, or just play fuck off. Like having sex in the dark, you're the pawn that you play best. It's the stage, just right, we on a farm with the art and me with the pawn. Not the tunes or liquid, wondering what the fuck is this? Yes. Answer's next evolution, yes, I'm a mutant, extra bone in this. Wanna call them x-rays, you want them. I got them, I'll mail them, take them through slalom to friends and sell them on eBay, I want my cut. Joke's over like I told you, shit's corny, a little bit too much. For my taste, take my space, might make 2 mil friends, but not have 1% of talent. That is my point of view, like rapping is fun. This isn't Irby, you didn't even need to ask once. Rookie veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Veterans say they smash it, but they need to drop the racket, the slack. In this game called Pass to Face It, I'm serving the aces and it's game, set, and match. Yo, I don't know sports and yet I still score.
It's like this. It's like without like this. It's like this.
C'était The Herbalizer, ce Game, Set and Match, morceau qui porte bien son nom. On parlait de cette finale, vous vous souvenez,
oui,
les amis?
Oui, oh, oui, de on se Roland souvient. Garros, oh, oui. En 92, oh, Steffi Graf contre Steffi Graf contre Monica Seles.
Monica Seles, du coup.
Seles. Non, alors... mais donc c'est un match quand même qui est très très attendu. Oui. Et peut-être que c'est important de dire que au départ, les spectateurs de la Porte d'Auteuil sont complètement acquis à la cause allemande et soutiennent Steffi Graf. Et c'est toujours dur d'avoir le public contre soi.
Oui, surtout ouais, la Porte d'Auteuil.
Ouais. C'est vrai que c'est assez impressionnant en fait. On...
Ouais, c'est un public versatile en même temps. Il oui. change d'avis comme de culotte.
T'as fait du latin oui. quand t'étais jeune.
Ouais, Versatilus.
Versatilus.
Donc en fait, elle se fait carrément siffler.
Elle
quoi,
se fait, elle se fait, elle s'est fait un peu huer. Ouais.
Ça, c'est honteux parce que et c'est vrai qu'à Roland Garros.
Et pourquoi d'ailleurs elle se fait huer?
Notamment à cause de ses cris, non?
Ouais, oui, ça a dû jouer certainement.
Il y a de ça un peu. Ouais.
D'ailleurs, moi, j'avais lu un truc où on disait qu'il y avait un peu des études qui avaient été faites qui disaient que ces cris-là, ça ne lui permettait pas de mieux jouer. Mais en revanche, ça pouvait déstabiliser ses adversaires.
Ouais, je sais pas.
Mais bon.
Quoi chez les mecs, il y a Connor qui criait beaucoup.
Aujourd'hui, plus récemment,
personne n'en parlait. Là, il y a eu quand même des réactions un peu, je trouve, un peu dégueulasses et machistes sur les cris de Monica Seles.
Il y a des trucs assez graveleux, effectivement.
Complètement.
Ah bah là c'était honteux, ouais.
Alors le match est très serré. J'ai quelques stats.
Donne-nous des stats.
Qui l'attestent.
T'aimes bien les stats. Toi.
J'adore les stats. En premier service, 75% de réussite pour Seles, 76% pour Graf. Point sur premier service, 59% Seles, 55% Graf. Pourcentage. Double faute, 2 partout. Ace, 2 pour Seles, 3 pour Graf. Les points marqués, 125 pour Seles, 113 pour Graf. Service perdu 6 Seles 7 Graf, les breaks 7 Seles 6 Graf, jeu blanc 5 à 3 pour Seles et les points gagnés sur service 62 pour Seles 69 pour Graf.
C'est coup pour coup.
C'est
la réponse du berger à la bergère.
Voilà, enfin on l'a.
Et ça va être un match assez long. Seles va gagner le premier set assez facilement 6-2, ouais. Graf le second 6-3. Et nous sommes donc dans le troisième set avec 1h55 de jeu.
Oui. Et là, ça fait beaucoup.
Il faut expliquer quelque chose, c'est qu'on a parlé du tie-break pour ceux qui nous, qui nous écoutaient tout à l'heure.
Oui.
Et il faut savoir que le tie-break n'existe pas dans le dernier set de Roland-Garros. Oui. Et d'ailleurs, à l'époque, il n'existait pas dans la plupart des tournois.
Et
là,
maintenant,
il
n'y
a plus que
Roland-Garros
qui ne fait pas le tie-break au dernier set. Ce qui fait qu'on peut se retrouver avec des matchs à rallonge.
Ça peut aller jusqu'à 80-78, voilà.
Le record du monde, le match le plus long, c'est un Français, c'est Mahut,
ouais,
qui jouait contre Isner. Oui. Ouais. Et c'était un match de 11h30 ou 11h50.
Mahut a perdu d'ailleurs.
Et le dernier set, il a perdu, je crois que c'était 70 à 68.
Ah bon,
voilà.
Et à la fin, c'est hyper impressionnant. En fait, tu les vois, ils servent, mais ils n'arrivent même plus à se déplacer sur le terrain, à courir quasiment, tellement ils sont épuisés.
Ouais, et puis à l'arbitre aussi sur sa chaîne, enfin, c'est vraiment 11h50, je crois.
T'es sûr que c'est aussi long que ça? Ça me paraît énorme.
C'est vraiment.
Okay.
11h30 ou 11h50.
Il jouait contre qui, Mahut?
Isner. Isner Mahut, et ça a été un match incroyable, et ils ont eu plein de cadeaux à la fin et tout ça, tellement ils étaient.
Ils ont marqué l'histoire.
Record du monde.
Et autant vous dire que Isner qui gagne ce match-là va le perdre très rapidement le suivant.
C'est incroyable, j'ai le score. Alors en fait, il y a. Alors 6-4, 6-3. Au dernier set, 70-68.
Oui, ouais,
c'est incroyable.
C'est incroyable. D'accord. Alors,
je venais juste de le dire.
C'est un peu ce qui va se passer parce qu'effectivement, il faut deux jeux d'écart.
Et donc, on va aller à 6-6, 7-7.
Alors, il faut déjà préciser une chose. À un moment donné, à 1h55 de jeu, comme tu le disais, Seles mène 5-3.
Oui.
Donc, elle est à un jeu du match. Graf est au service.
Ouais.
Et Seles aura 4 balles de match pour remporter la rencontre, et à chaque fois Graf va retrouver les ressources pour sauver ses balles de match.
Oui, donc alors psychologiquement on se dit que Graf a pris l'ascendant quand même, parce qu'elle a réussi à remonter. Et ce qu'on disait, c'est toujours la même chose au tennis, quand t'as souvent des moments de bascule, d'ailleurs il y en a un qui est très fort pendant un moment et d'un coup il va y avoir un point,
c'est
un événement
mental, ouais.
Et hop, ça va complètement faire basculer le match, et là on se dit bon, Céleste elle va craquer, quoi.
Mais c'est pas que en fait la durée du match qui est imposante physiquement, c'est aussi l'intensité en fait, quand on voit
échanges.
Les statistiques avant les échanges, ouais. Ça dure
alors à 7 partout après 2h25 de jeu, Graf sert mais se fait breaker, donc elle perd sur son jeu. 8-7 pour Céleste. Céleste sert pour le match.
Mais se fait breaker.
8-8. Ouais. Graf.
Ça s'arrête jamais.
Sert et se fait de nouveau breaker. 9-8. Et Céleste finit par remporter ce set 10-8.
Et
gagne son troisième badge FR3.
Alors là,
elle ne
s'arrête pas devant les journalistes, tellement qu'elle a peur qu'on lui en remette un, petit badge. Non, mais elle gagne donc après un match de 2h43, ce qui est long pour un match de femme en 2-7 gagnant.
Oui, qui est un des matchs les plus. Des matchs d'anthologie de la rivalité Graf-Céleste. 92, moins d'un mois après cette finale,
en Angleterre,
Graf aura l'occasion de se rattraper. Hein,
oui. Et elle va Wimbledon.
À Wimbledon. Et elle va, on peut le dire, hein, défoncer Céleste en 58 minutes. Cette fois-ci, ça n'a pas duré 2h40.
6-2, 6-1, allez, bisous.
Ouais. Là, c'est quasiment pas le même tennis. Attention, quand on est sur une surface aussi. Quand on est sur une surface aussi différente, on a l'impression de changer de sport. Et techniquement, effectivement, il faut être capable de passer d'un tennis à l'autre. Et ce qui n'est pas forcément le cas.
D'ailleurs, Céleste ne va jamais gagner Wimbledon. Et Wimbledon, c'est souvent celui qui va manquer aux grands champions, même si ce n'est pas forcément toujours le cas. Par exemple, Federer, lui, il a mis très longtemps à gagner un Roland-Garros.
Oui. Et puis elle, c'était sa première fois sur Wimbledon aussi.
Oui, puisque...
Oui, c'était sa première participation. Hein.
Ah ouais
l'année d'avant.
La première participation, elle arrive en finale quand même. C'est pas mal.
C'est très bien.
Mais d'ailleurs, Steffi Graf sera un peu moins forte sur terre battue aussi. Elle est moins à l'aise, elle est plus à l'aise beaucoup sur regarde Nadal qui au départ gagnait tous les ans Roland Garros et qui arrivait avait plus de mal sur les surfaces rapides quoi.
Tout à fait. Ouais.
Alors le pire c'est quand même en revêtement, c'est quand même le sable.
Ah oui. Ah bah le bac à sable.
Alors là c'est pas évident.
C'est vraiment compliqué.
Ah, ça, c'est dur.
C'est dur de gagner là-dedans.
Surtout quand tu marches sur les seringues.
On va revenir sur les cris.
Mais il fallait pas la relever celle-là, il fallait continuer.
Les alors, cris de Monica Céleste parce que Wimbledon justement, le Wimbledon il y a un côté c'est très carré, c'est un peu le tournoi le plus chic, on doit être encore en blanc, etc. Et beaucoup vont s'émouvoir de ces cris, notamment parmi ses adversaires qui disent que ça les gêne, qu'ils n'entendent plus la balle rebondir sur la raquette, etc.
Navratilova et Nathalie Tauziat qui se sont plaints pour donner des noms, je balance.
Non, mais t'as raison de balancer.
Qui vont se plaindre parce qu'en fait elles se plaignent qu'on n'entend pas l'impact de la balle sur la raquette de Céleste, donc on ne sait pas trop quand elle frappe. Enfin bon. Et les arbitres vont entendre ces plaintes et vont rappeler à l'ordre Monica Céleste en lui disant hey, cocotte,
arrête de crier.
Et d'ailleurs, ils lui disent comme ça.
Ils lui disaient cocotte. Et d'ailleurs, elle ne criera pas dans sa finale contre
Steffi
Graf. Est-ce que
ça a joué
une causalité? Nous ne savons pas.
Bah, en fait, quand tu joues pas totalement libéré, que t'es peut-être un peu omnibulé par un détail.
Parce qu'il y a toujours ça en tête. Peut-être que derrière, il va y avoir une espèce de punition.
Après, elle prend elle se fait vraiment battre largement.
Oui, tout à fait.
Surtout que ça critique pas en fait son jeu. En fait, ça aussi qui, je pense, peut être très perturbant, c'est que ça critique pas ta technique, ça critique juste que tu es profondément en toi. Donc je pense que ça peut être une des raisons.
Puis encore une fois, quand tu vois Nadal sur le court,
oui, c'est pareil, il reçoit aussi des critiques et quelques plaintes. Et même certains joueurs en face, des fois, s'amusent à l'imiter pour essayer de le déstabiliser.
Ah ouais,
apparemment, ça a rarement marché.
Notamment Söderling, qui était l'un des seuls joueurs à l'avoir sorti de. Qui est le seul joueur d'ailleurs à l'avoir sorti de Roland-Garros.
Ah ouais.
Ah bon. Et qui. Oui.
Alors les tabloïds vont s'en donner à cœur joie aussi par rapport à Céleste, hein. Ils vont moquer ses cris durant la compétition et donc du coup effectivement c'était les titres et donc du coup elle va jouer en mangeant du chamallow du coup pour pas pouvoir pousser ses cris.
Très bonne vanne, on continue.
Merci beaucoup.
Alors au cours de l'année 92 elle va quand même empocher 2 millions, c'est très précis, 2 642 452 $.
Alors t'as oublié les 35 centimes
les 35 centimes et les 3 badges,
ça fait une coquette somme, hein. C'est pas mal
et,
du tout
record de gains annuel au tennis tant sur le circuit, c'est ce que je disais, masculin que féminin. Elle a gagné plus que parce qu'elle a gagné beaucoup de tournois.
Ça c'est ses gains qui sont associés au sport ou aussi accumulés avec les sponsors?
Je pense que c'est juste le sport parce qu'effectivement elle a aussi des sponsors.
C'est vrai que le chiffre est précis, hein,
Le chiffre est très précis. Alors dès le début de l'année suivante, les deux rivales vont avoir une nouvelle fois l'occasion de s'affronter en finale de l'Open d'Australie.
Oui.
Voilà,
c'était encore, sympa.
En janvier 93.
Ouais. C'est encore un très très gros match, encore un match épique. En 3-7, Céleste va perdre le premier set 6-4 avant de gagner les deux suivants assez plus facilement 6-3, 6-2. Elle gagne son troisième Open d'Australie. Elle est au sommet de son art à ce moment-là. En plus, elle commence on voit qu'elle a vraiment progressé sur ce qui allait moins bien, c'est-à-dire son service. Elle arrive de plus en plus aussi à rattraper la balle à une main, ce qui fait que quand elle est en difficulté, elle est moins en difficulté. Mm-hmm. Donc voilà, c'est vraiment l'apogée de la carrière de Céleste.
Pour la petite info, elle était en 21 matchs à l'Open d'Australie, elle n'a connu tout simplement aucune défaite. Oui. C'est pas mal. Elle était quand même sur 31 victoires consécutives, hein, toutes compétitions confondues.
Et si on veut donner quelques autres chiffres assez impressionnants, à ce moment-là, elle a gagné 7 des 8 derniers tournois du Grand Chelem, auxquels elle a participé, parce qu'elle en a raté aussi. Mais
elle a raté Wimbledon l'année, pour des raisons mystérieuses.
L'année précédente. Et sur le bilan de sa rivalité avec Steffi Graf, puisque c'est aussi quelque chose qui est intéressant, en 10 rencontres à ce moment-là, Graf mène, puisqu'elle a gagné 6 fois. Mais sur les 4 finales de Grand Chelem disputées entre les deux finales, Céleste en a gagné 3. Donc elle la surclasse quand même dans les moments les plus importants.
Dans les moments majeurs.
Donc Monica Céleste, à ce moment-là, est au sommet de son jeu.
Est première mondiale depuis quasiment 2 ans, je crois, à ce moment-là.
Au sommet de sa gloire. Et le 30 avril, au mois d'avril 1993, elle participe au tournoi de Hambourg. Un peu en dernière minute, puisqu'elle sort d'une convalescence, elle avait une infection virale, bref. Et en quart de finale, elle rencontre la Bulgare Magdalena Maleva. Nous sommes dans le deuxième set. Céleste mène 6-3, 4-3. Au changement de côté, les deux joueuses s'assoient pour se désaltérer et l'effroyable se produit. Écoutez.
Sofort ein Arzt auf den Platz.
C'est assez glaçant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, hein ? C'est décrit. Hein ?
Alors,
Quelqu'un qui est assis dans le public se fait maîtriser. En tout cas, les images que l'on a.
Ouais, on entend un cri.
On entend un cri. Mais les images que l'on a à l'image, c'est des.
C'est l'après.
C'est l'après. Mmh. Donc on a des gardes du corps, donc en civil, qui sont en train de maîtriser un homme.
Gardes du corps ou spectateurs les... C'est des spectateurs, hein, je crois qu'il y a
un. Non, c'est des gardes du corps.
Non, c'est la sécurité.
C'est la sécurité qui
et
est
en fait,
civil. Ouais.
Juste pour dire, à ce moment-là, les deux joueuses en fait, sont entre deux jeux et donc sont toutes les deux assises donc, sur leur banc à côté de l'arbitre. Et pour le changement de côté, elles sont assises et elles font dos au public.
Voilà.
Comme dans n'importe quel cours de tennis.
Monica Céleste se lève, elle fait quelques pas un peu machinalement, elle s'effondre en fait, enfin elle s'effondre, elle tombe au milieu du cours.
On vient la soutenir et quelqu'un la retient et effectivement elle se laisse tomber.
Elle finit par perdre connaissance.
Elle vient de se faire tout simplement poignarder.
Elle vient de se faire
par un spectateur.
Dans le dos, comme toi tout à l'heure dans le pub, Mickaël.
Oui. avec quand même juste un couteau de cuisine.
Lame de 12 cm.
Ouais, lame de 12 cm. Ouais.
De quoi émincer.
Elle évidemment.
Ne rentre que de 3 ou 4 cm.
Oui, alors elle évacue évidemment en civière immédiatement, le match s'arrête. Peut-être quelqu'un qui en voulait à son badge FR3.
Ah bah sûrement.
La jalousie, forcément.
Des années de frustration, on voit ce que ça donne.
Et elle évacue en civière. Bon, les premières nouvelles sont quand même rassurantes.
Assez positives.
Ouais, vers 20h, on apprend qu'il n'y a pas d'organes importants. Qui a été touchée, ce qui fait qu'elle elle pourra continuer à jouer.
Oui, ni les poumons, ni la colonne vertébrale, notamment.
Finalement, ça va se révéler être une blessure physique assez peu profonde.
Mais un traumatisme
Ensuite un traumatisme.
Alors,
évidemment plus
son agresseur, on apprend qui c'est petit à petit au fil des informations, s'appelle Günther Parche.
Oui, je dirais Parche.
Parche.
J'en ai aucune idée, j'improvise totalement.
Un ouvrier allemand de 38 ans, d'ex-RDA, qui exerce sa profession de tourneur, on a pas mal d'informations. Il est incarcéré, inculpé pour tentative de meurtre, évidemment.
Ouais.
Dans un premier temps, les médias évoquent l'attentat politique. On explique pourquoi.
Ouais, il y a un contexte qui se passe dans les Balkans, où si pour les plus jeunes d'entre nous se souviennent, il y avait une guerre entre les populations et effectivement on a en Yougoslavie ou nommée ex-Yougoslavie une dislocation des territoires par héritage entre guillemets d'une mauvaise gestion c'est certainement nos copains de Culture 2000 qui pourront préciser un peu plus les choses mais en tout cas il y a des épurations ethniques il y a des mouvements de population et effectivement il y a tout un courant un peu de haine comme ça qui se répand notamment auprès des diasporas qui sont assez nombreuses
la Yougoslavie c'est un territoire qui rassemble plusieurs nationalités. Exactement. Et qui a été créé assez artificiellement Et pendant un temps, c'est Tito, un dirigeant communiste, qui va réussir, on va dire, à maintenir une forme d'unité.
Et, quand Slobodan, sous l'influence de l'URSS.
Sous l'influence de l'URSS, bien exactement. Sûr. Et quand Slobodan Milosevic, qui est d'origine serbe, va arriver au pouvoir en Yougoslavie, il veut revendiquer l'ascendant, on va dire, de la Serbie sur les autres territoires qui vont commencer à revendiquer leur indépendance.
Voilà. Et donc là, on a entre guerre de religion, guerre ethnique. On a
des formes de guerre de sécession qui vont disloquer la Yougoslavie.
Et de tristes souvenirs avec effectivement des décisions prises par l'Union européenne pour essayer de un peu de contrebalancer des populations qui sont plutôt à tenter d'être protégées par l'OTAN et d'autres par toute une autre forme d'indépendance.
Oui, alors parce qu'il faut préciser effectivement, on rappelle que
Céleste est d'origine hongroise, donc d'une minorité hongroise.
Elle parle hongrois,
mais elle est yougoslave.
Voilà.
Et donc.
Et on se demande si ça n'a pas un rapport.
On se demande si ça n'a pas un rapport et si ce n'est pas un acte politique. Et je me souviens,
d'autant, je pense que c'est ce que tu voulais dire, d'autant qu'elle a reçu des menaces de mort par le passé.
Elle n'est pas la seule, à une époque, un joueur du Milan AC, Zvodimir Boban, avait aussi reçu des menaces de mort et s'était battu avec un supporter qui l'avait insulté au bord du terrain. Et effectivement, c'était des joueurs et des sportifs globalement qui étaient très en vue, puisque la Yougoslavie avait une culture de sport collectif très importante.
Très importante. On va revenir à ce Wimbledon de 92 où elle reçoit une lettre de menace de mort de la part de Croates qui affirme avoir placé une bombe dans la maison que louait la joueuse à Wimbledon. Scotland Yard va faire évacuer les lieux et il s'avéra qu'en fait c'était une fausse alerte, mais bon, elle a reçu des menaces, donc c'est plutôt c'est logique.
Donc le doute était permis, oui, bien sûr.
Voilà, d'évoquer ça. Au final,
C'est pas du tout ça.
Oui. Non. Qu'est-ce que c'est,
Chloé ? Gunther, en fait, c'est juste un immense fan de Graf, en fait, qui est outré qu'elle ne soit plus du tout numéro un mondial et qui va faire en sorte que ça elle reprenne sa place.
Ouais, c'est juste un taré, en fait.
Il faut noter que c'est un bon maboule. Il parlera au procès de sa relation à Steffi Graf. Il a eu une révélation et il s'est mis à collectionner les photos, à enregistrer tout ce qu'il voyait à la télé sur cassette pour se les rediffuser.
Pour pouvoir repasser les cassettes de Steffi Graf.
Bah, exactement, comme tu le dis, il est jugé déficient mental.
Oui. Voilà. Enfin,
tu le fais bien.
L'expérience. Il veut déstabiliser.
Mais attends, t'imagines, ça veut dire que toi, supporter de Dijon, t'imagines tout le monde, tous les gens qu'il faudrait attaquer pour que Dijon gagne
toute la Ligue 1. Alors, son plan va s'avérer efficace, puisque malheureusement, Monica Seles ne participera pas à Roland-Garros. Et le 4 juin, c'est Steffi Graf qui s'impose et reprend du coup sa place de numéro 1 mondial.
Oui.
Dans la foulée, Seles déclare forfait également pour Wimbledon. Enfin bon, sa carrière périclite. Le 13 octobre 93, procès.
Oui. Donc Gunther Parge va être condamné à 2 ans de prison, mais avec sursis. Donc ce qui est une peine qu'on peut considérer assez légère, mais
scandaleuse.
Mais il y a plusieurs raisons. C'est que on juge que mentalement il n'a pas toutes ses capacités, et la deuxième chose c'est qu'on estime qu'il n'y avait pas, on ne retient pas la charge d'homicide volontaire, mais seulement
de tentative de meurtre,
vouloir juste blesser. Donc ça, coup et blessure avec préméditation.
Il est condamné pour blessure corporelle.
Cette condamnation qui va être reconfirmée plus tard va aussi beaucoup fragiliser Monica Seles, qui donc elle est en convalescence, mais qui en fait assez rapidement physiquement va récupérer, mais c'est psychologiquement où elle va mettre quasiment 2 ans, revenir sur les cours. Cette peine légère va pas l'aider en fait à reprendre le dessus.
Ses avocats font appel, effectivement.
Ouais,
Il risquait quand même 5 ans de prison. Ils font appel, mais le jugement est confirmé 2 ans plus tard, en 95.
Oui.
Donc toujours 2 ans de prison avec sursis. Donc en fait, il est libre.
En fait, le juge estimait aussi qu'il avait exprimé des remords suffisamment convaincants et sincères pour ne pas le pénaliser davantage.
Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on ait balayé la préméditation alors que la personne qui va perdre contre Steffi, alors tu dis Arantxa Sanchez, elle a également reçu des menaces de la part de Gunther. Elle a reçu des lettres.
C'était aussi une concurrente directe
pour Steffi Graf.
Donc on ne garde pas la préméditation.
Rentrer avec un couteau de cuisine dans un cours de tennis, c'est normal.
On retient la préméditation, mais seulement pour volonté de blesser
et pas de tuer.
Mais la préméditation est quand même retenue.
D'accord.
Alors effectivement, elle se remet physiquement
plutôt assez vite, mais c'est effectivement psychologiquement qu'elle va plonger. Elle va traverser une longue période de dépression, hein, de 2 ans, où elle va subir des troubles du sommeil, troubles alimentaires compulsifs. Elle souffre de binge eating.
Oui, elle va beaucoup grossir.
Elle va prendre du poids.
La boulimie.
Elle va faire appel à un psychologue qu'elle aura au téléphone tous les jours. Mmh. En fait, Céleste, elle ne comprend pas déjà d'un côté pourquoi... Pourquoi déjà, un, on lui a retiré, on l'a laissé, les autres championnes, on lui a pas laissé le titre de numéro 1 mondial. Ouais. Elle comprend pas avant ça, parce que quand elle est dans sa chambre d'hôpital en 93, il y a Graf qui vient la voir à son chevet, ça on peut peut-être dire deux mots. Oui, Graf vient la voir, c'est assez touchant d'ailleurs. Et quand Graf lui annonce que le tournoi continue, elle trouve ça absolument hallucinant. Sur Wikipédia, il y a vraiment écrit 6-3, Céleste, je sais pas qui là, Maléva, 6-3, 6-2, abandon quand même.
C'est vrai quoi, alors elle peut encore jouer.
Et du coup la vie continue. Elle se rend compte que le petit monde de bisounours du circuit
hypocrite
en fait continue sans elle, et en plus n'a pas d'égard particulier pour elle, et ça elle le prend très 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 mal.
Après
alors elle va
enfin autant il peut y avoir un manque d'égard, mais ça paraît logique derrière que les compétitions suivantes
évidemment mais elle a surtout pas eu de justice qui lui semble
c'est surtout la décision de justice alors elle va reprendre l'entraînement assez vite, hein. Elle s'octroie les services de Bob Kersey qui est un entraîneur d'athlétisme. Et en janvier 95 elle va se pensant guérie, elle va tenter de revoir les images, elle va replonger totalement mais le 30 juillet donc pas si longtemps après, 95, hein, Monica Seles effectue son retour.
Oui. Entre-temps, elle a acquis la nationalité américaine pendant cette convalescence.
Et elle a juré de ne plus jamais retourner en Allemagne pour un tournoi.
Elle l'a fait quand même. Hein. Et je crois qu'elle n'est plus jamais retournée.
Je sais pas.
Mais comme c'est de Jean-Michel à peu près, du coup, je ne vais pas m'avancer plus que ça.
En tout cas, du coup, le 30 juillet 95, elle a fait un match d'exhibition, donc un match à une cale, contre Martina Navratilova.
Mais c'est pas un match où tu joues tout nu en impair.
Non. Non. Ce serait drôle.
Contre. Oui.
Ça me plaît, cette idée.
On te fait confiance, ça.
Martina Navratilova, qui est une des rares tenniswoman à avoir soutenu. Oui. Monica Seles pendant sa période de convalescence, et donc elles vont jouer toutes les deux l'une contre l'autre lors de ce match d'exhibition, un match qui va être suivi par plus de 500 journalistes. C'est vraiment l'événement majeur dans le tennis.
Mais ça fait un peu l'effet malheureusement d'un pétard mouillé, puisque Seles ne retrouvera jamais en fait son vrai niveau, enfin le niveau qu'elle avait avant cette attaque. Elle est victime de blessures à répétition.
Elle fait
le yo-yo avec son poids.
Elle va quand même regagner un tournoi du Grand Chelem, qui est l'Open d'Australie en 96.
Ouais,
qui
elle en gagne plus qu'un alors qu'elle en avait gagné 8 avant. Quoi. Oui.
Donc, elle en gagne plus qu'un.
Elle revient quand même à un très grand niveau, même si elle ne reviendra jamais à ce top niveau qu'elle avait eu avant cette agression.
Elle y revient à force de volonté, pour le coup. Toute la volonté, le mental de Monica Seles qui a fait qu'avant, quand elle avait le physique en plus, c'était la plus grande championne de tennis à l'époque, fait qu'elle va réussir à gagner des matchs. Elle va quand même gagner quelques tournois.
Comme quoi, la part du mental.
Beaucoup de tournois mineurs et quand même Roland l'Open d'Australie, c'est
Open
ça
d'Australie,
l'Open d'Australie. Il y a aussi un truc qui est très important, c'est que son père est malade à ce moment-là. Il a un cancer
ce qui la stimule aussi
depuis 93, et son père c'est un peu toute sa vie, et ça va beaucoup jouer aussi sur son envie
de faire
du tennis.
Et elle mettra un terme définitif à sa carrière le 14 février 2008, donc une carrière exceptionnel
qu'il faut applaudir,
auquel on va rendre hommage en écoutant le moment le plus fort de sa carrière.
I just want you to know because we covered all between Antin 2 and FR3. We covered the whole the whole tournament. And this is FR3, the little badge FR3.
Est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
Give you a rendezvous for next year.
Est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
On donne le petit. Oui. Maybe you can put it on.
Yes. Régis Forissier.
Oh
yeah. Yes. Attention de pas vous piquer. Voilà.
C'est le petit badge FR3, Michel.
Magnifique. Excellente idée, Nelson. Bravo.
Excellente idée.
Super. Regardez. Cette image magnifique. FR3.
Le petit badge FR3, Michel.
Non, mais,
peut-être
mais...
qu'on peut quand même dire et saluer quand même. Je trouve que c'est assez émouvant en fait quand tu lis la lutte qu'elle a menée pendant des années pour revenir, pour rejouer, etc.
Elle dit...
Et pardon, vas-y Olivier.
Non, non, pardon, je te coupe, mais c'est vrai qu'elle dit que ces 9 années après la reprise du tennis pour elle a été un calvaire. Ouais. La mort de son père. Alors, il y a une jolie histoire quand même, c'est qu'elle fait Roland-Garros en 98, je crois. C'est son père vient de mourir et elle fera Roland-Garros sans préparation. Elle sera tout en noir pendant tous ses matchs. Elle va arriver jusqu'en finale.
Jusqu'en finale, oui.
Jusqu'en finale, en sortant Martina Hingis, la petite Suissesse, ouais. En demi, qui était à l'époque au
sommet de son art. Ouais, oui, bien sûr, la valeur montante.
Elle lui met un 6-3, 6-2, je crois, de mémoire. Elle arrive en finale.
6-2, 6-2 même, je crois.
Ouais, 6-2, 6-2. Elle arrive en finale et elle rend quand même hommage à son père avec cette finale, vraiment au mental, quoi. Et c'était aussi cette joueuse-là,
ouais, c'est une bataille.
Qui fait que après 93, physiquement, ça a été, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est cassé chez elle.
Ouais, bien sûr, ouais.
Voilà, c'était la carrière de Monica Seles. C'est l'heure du contrôle antidoping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle antidoping. Donc il fallait faire la petite chose.
Se colle au contrôle anti-doping.
C'est moi.
Ah, Younes, prends ta petite épouvette.
Oui, bah forcément, on a parlé d'une sportive qui a une fantastique carrière, qui était au sommet de sa gloire et qui a été fauchée au sommet de sa gloire. Là, on parle d'un joueur de football qui n'a pas forcément été la star mondiale que tout le monde connaît, mais qui, par son destin tragique, a marqué les esprits. Ça se passe à la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis et la Colombie affronte les États-Unis. Et en match de poule, voilà. La Colombie fait un début de tournoi très mauvais puisqu'elle perd son premier match contre Georges Hadji et sa Roumanie qui était l'équipe très forte.
3-1.
Et compte bien se rattraper contre les États-Unis qui est à un niveau en dessous.
Mais qui est organisateur.
Qui est pays organisateur, effectivement, avec le public de son côté. Mais malheureusement, le scénario du match tourne un peu au vinaigre pour les Colombiens puisque sur un tacle essayant de dévier un ballon, Andrés Escobar met le ballon dans son camp et donne un certain avantage à l'équipe adverse.
Et un but.
Voilà, un but. Voilà. Finalement, la Colombie réussit à réduire le score 2-1, mais ça ne suffit pas. La Colombie est éliminée puisqu'elle finit dernière du groupe. Et c'est un peu le retour au pays pour toute l'équipe de Colombie, sur laquelle en fait tout le pays avait fondé un peu d'espoir.
Oui, c'était un outsider sérieux quand même.
C'était
la Colombie,
un outsider sérieux. Et puis pendant les qualifications, ils avaient battu notamment l'Argentine 5-0, donc ce qui n'est pas rien. Il y a un super film.
L'Argentine de Maradona encore.
L'Argentine de Maradona, voilà. Il y a un super film colombien qui parle de cette période et qui parle de ce match qui s'appelle Golpe de Estadio. Et en fait, vous le trouvez aussi sous le titre de Time Out et qui revient un peu sur le contexte politique. Et c'est pour ça, en fait, on va parler aussi un peu de la Colombie de ces années-là. C'est l'après Pablo Escobar, donc l'autre Escobar. Voilà, c'était l'homme en forme du moment, comme on dit, et qui a été abattu un peu par la CIA et le FBI et l'armée colombienne. C'est aussi la Colombie des FARC, donc des guerrilleros qui étaient un peu cette révolution colombienne tant espérée, mais qui s'est finie un peu en autre boudin. C'est aussi beaucoup de kidnappings dans les rues et c'est des meurtres à la sauvette qui se passent un peu. Donc c'est vraiment un pays qui, autour de l'équipe nationale, avait beaucoup d'espoir pour essayer de revivre un peu une sorte de cohésion générale, un peu comme dans toutes les mécaniques un peu politiques et politiciennes. On espère beaucoup de l'équipe nationale pour pouvoir un peu mettre de la lumière sur le pays avec toute la
corruption. Apaiser les choses, faire
les choses,
que tout va bien, quoi.
Etc. Donc ça, c'est un peu la folie du football en Amérique latine en général et surtout en Colombie dans ces années-là. Et on a donc, après l'élimination, le retour au pays des joueurs. Et Escobar, le 2 juillet 1994, se fait assassiner sur le parking d'un club, d'une discothèque qui s'appelle El Indio. Et est assassiné par un certain Castro qui tirera 12 coups de feu et qui, à chaque coup de feu, criera « goal, goal, goal » et de façon assez cynique.
Ouais. Horrible.
Donc, on emporte le pauvre Andrés à l'hôpital et arrivé en soins d'urgence, il ne survit pas longtemps et son cœur rend. Et c'est le gardien Higuita avec un autre de ses coéquipiers qui vient identifier le corps pour reconnaître en fait leur camarade de jeu qui avait une belle carrière on va un peu parler de lui en tant que footballeur, qui était un footballeur élégant, qui défendait debout, comme très rarement en fait on avait en fait en défense centrale, qui avait une belle relance et qui était sur les tablettes du Milan AC, donc le grand Milan de l'époque, qui ouais. est un peu l'équivalent aujourd'hui de, pour ceux qui ne suivent pas le football
de Dijon quoi,
de Dijon voilà du DFCO. Non, c'est un peu l'équivalent du Real Madrid, donc c'est vraiment un club qui est sur la scène européenne et vraiment très fort et qui en championnat dans le calcio italien ne laisse rien aux autres. Ouais. Donc il était recruté pour rejoindre l'Europe. Il avait déjà joué en Europe, notamment en Suisse, Young Boys
de Berne.
Berne, j'ai du mal à le dire. Je préfère dire le FC Bâle. Les Grasshoppers de Zurich. Et en fait, 12 ans plus tard, après avoir été écroué pour assassinat, et alors qu'il avait été écroué pour perpétuité, 12 ans plus tard, l'assassin Castro est libéré, donc c'est un scandale. Et c'était un peu en fait dans une vague de libération, notamment liée en fait à un peu une paix nationale, puisqu'il y avait beaucoup de criminels de guerre et de criminels en fait liés aux narcotrafiquants qui étaient enfermés. Et donc on a essayé un petit peu de détendre l'atmosphère en Colombie. Et donc effectivement, il y a un monument qui est érigé aujourd'hui à la mémoire d'Andrés Escobar. Et on a fait une marche le jour de ses obsèques qui a réuni plus de 120 000 personnes.
Ah oui, quand même.
Donc, bon, il était aussi très près de l'église. C'était ouais. quelqu'un qui était plutôt considéré comme quelqu'un de bon. Et ça avait un peu bouleversé, en plus, toute la Colombie, tout le monde du football. Et l'extrême, en fait, réaction en fait, d'un supporter. On aura collé aussi, par rapport à son meurtre, des rumeurs de Paris, ce genre de choses un peu ouais. obscures, pour essayer de salir sa mémoire. Mais bon, rien de tangible, rien de concret.
Oui,
rien
la rumeur, c'était qu'en fait, les narcotrafiquants ou des gens, on va dire, influents avaient misé beaucoup d'argent sur la Colombie.
Notamment ouais. sur cette victoire face aux États-Unis. Et en fait, bah, il s'avère que beaucoup pensaient que Escobar avait mis un but contre son camp, un peu pour favoriser un camp, notamment ouais, le cartel de Medellín, enfin bref, ouais. etc. D'accord. Mais voilà, rien de tangible, que des rumeurs. Et pour avoir cherché longtemps pour essayer de trouver en fait un début d'enquête intéressant avec des preuves, rien du tout. Ouais. Donc non, il a vraiment été assassiné
pour
des raisons sportives, ouais. par un déséquilibré, la sortie d'une boîte de nuit. Bah, c'est sordide, malheureusement, mais c'est la triste réalité.
Ça en dit long hein, sur les passions que provoque le sport. Hein, c'est devenu...
En général, non,
c'est terrible.
Enfin, il y a beaucoup de cas. Alors, on a parlé de Monica Seles, c'est pareil. Le mec, il lui a sauté dessus pour des raisons sportives. Il y a Escobar, mais il y en a beaucoup d'autres. En
fait. Moi, je me souviens de Pierre Wome, qui était un footballeur camerounais,
ouais.
Qui avait raté un penalty, un tir au but,
ouais.
et il avait vu sa maison brûler.
On avait brûlé
sa maison.
J'ai lu son histoire. D'ailleurs, c'est toi qui me l'avais envoyé, son ouais. histoire.
Il y avait eu le bus de Dortmund aussi.
Après, le bus de Dortmund, c'est parce que c'est lié à des paris encore. Enfin, c'était, ouais. Je crois que c'était à des valeurs boursières. Dortmund pouvait perdre en valeurs boursières. Enfin, c'est un starbé de toute façon.
Oui, alors on précise, c'était il y a deux ans.
Il y a deux ans, c'était avant d'affronter Monaco en Ligue des Champions.
Effectivement, l'argent mis en jeu dans le football, aujourd'hui en plus avec les paris en ligne, n'arrange pas les choses. Bon, là, on est en 94, les paris, de toute façon, ne sont pas en ligne. Il n'est pas commun de parier sur le football, à part dans des milieux autorisés comme la pègre et les narcotrafiquants de l'époque.
Pour revenir à Dortmund, en fait, on précise, il y a une bombe qui a été posée sur le chemin du bus de l'équipe.
Le chemin du bus de l'équipe,
ouais. Qui a pété, ouais. Non, mais c'est assez incroyable. Et c'est assez symptomatique, en fait, du sport moderne aussi. Voilà,
c'était un peu une note un peu triste, mais forcément, il fallait revenir sur les agressions que les footballeurs ou les sportifs de haut niveau peuvent connaître. On s'accapare un peu leur personnalité alors que ils ont aussi une vie privée, et là forcément, avec un destin national entre les mains, un joueur, quand il commet un acte un peu triste et malheureux, il le paye très cher. Ouais.
Et voilà, sur ces notes hyper positives,
yeah,
on va se quitter. Merci à vous, merci de nous avoir suivis jusqu'ici.
Merci Mickaël d'avoir animé.
Oh bah de rien, c'est un plaisir.
Oui, merci Sarah, merci Chloé,
merci Chloé.
Merci
Olivier.
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook.
Oui.
Et puis proposer si vous
voulez. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et nous mettre des petites propositions.
Et
est en train de faire le tri, on en a quelques-uns déjà.
Il n'y a pas des lives de nos amis de Culture 2000 bientôt.
Non, c'est passé. C'est passé,
c'était très très bien.
C'était vraiment bien, merci d'être venus si nombreux. Il y a 2 heures de perdu, mais ça, bon.
Voilà.
En tout cas, merci et au mois prochain pour un sujet autour du sport, comme d'habitude.
Oui, bye bye.
Oui,
au revoir.
À bientôt.
Salut.
You know, because we covered all with between Anten 2 and FR3, we covered the whole the whole tournament. And this is FR3, the little badge FR3.
Est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
Give you a rendezvous for next year.
Est-ce qu'elle peut le mettre en direct?
On donne le petit. Oui, maybe you can put it on.
Yes, of course.
Yes.
Régis Sorissier.
Do you like this?
Oh, yeah. Yes.
Yes.
There you see.
Attention de pas vous piquer.
My shit be popping out the record store as if it was a drug house. My lyrics bang like a creep of blood. Nigga, what? It ain't nothing but a party when we thug. And there I was, a young nigga with heart. Ain't had shit to lose. Pulling my pistol on the fools. You know the rules. D-R-E, you got me heated. My words like a penitentiary dick. Hitting bitches with his
mouth. C'est le petit badge FR3, Michel. Ouais.
Magnifique. Excellente idée, Nelson. Bravo.
There we go.
Super, okay. Regardez cette image magnifique, FR3 et Monica Céleste. Elle a été magnifique, merveilleuse. Merci Monica, et ce petit badge FR3 lui va très 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 bien.